Eh bien, chers amis des cahiers de l'histoire, nous allons passer ces quelques 30 minutes avec un personnage que peut-être vous n'avez jamais entendu parler et qui s'appelle Vlad Tepes, T-E-P-E-S. Et Vlad Tepes, je pourrais le citer comme la légende de Dracula. Alors, le nom de Dracula, il est calqué sur le surnom de deux nobles que dans ce pays, qui actuellement est la Roumanie, eh bien on appelait des voïvodes. Les voïvodes étaient soit des commandants d'une grande région militaire, soit un souverain avec bien sûr un titre de noblesse. Alors, Vlad Tepes, je vais vous expliquer pourquoi Tepes, eh bien, a vécu au XVe siècle en Valachie, qui est une province de la Roumanie. Eh bien, Vlad Tepes et puis son père, Vlad Dracul, qui en roumain signifie le dragon, parce qu'il était membre de l'ordre du dragon. Mais il avait des ennemis qui l'appelaient parfois Draculea. Et Draculea, ça signifie petit dragon ou dragono. Et alors, c'est ainsi que Bram Stoker, à la fin du 19e siècle, reprit ce surnom pour nommer le personnage littéraire du conte vampire Dracula. Alors, ce surnom, effectivement, est affublé dans les chroniques occidentales, écrites bien après sa mort. Et son surnom, comme je le disais, est Tepes, qui signifie « l'empaleur » en roumain. Et qui signifie « celui qui met au pal » du nom de sa méthode favorite d'exécution. Les chroniqueurs turcs eux-mêmes l'ont appelé « Kadziglou Bey », ce qui signifie « le prince empaleur ». Ce sobriquet n'a jamais été utilisé par les contemporains de Vlad et n'apparaît pour la première fois qu'en 1550 dans une chronique de Valachie, soit un siècle après sa mort. Alors sa vie et ses actions s'inscrivent dans le contexte extrêmement mouvementé du milieu du XVe siècle pour l'Europe de l'Est. À cette époque, le Saint-Empire romain germanique et les pays chrétiens d'Europe de l'Ouest, en particulier les royaumes d'Autriche, de Hongrie et de Pologne, sont sérieusement menacés par la poussée de l'Empire ottoman qui vient de faire tomber définitivement l'Empire byzantin avec la chute de Constantinople le 29 mai 1453. Alors, les régions qui se situent entre les deux empires constituent le dernier rempart de la chrétienté. Quand je parle de chrétienté, je parle principalement des catholiques et des orthodoxes, contre bien sûr les musulmans, et sont le théâtre de batailles acharnées. Les sultans consolident leur contrôle sur Constantinople et assiègent les Balkans jusqu'à se rendre maîtres de la plus grande partie de cette région. Futurs États modernes comme la Serbie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Arménie et même le nord de la Grèce pour être finalement arrêtés aux portes de Vienne. Alors, on l'a nommé aussi, je disais, Dracula, parce qu'il faisait partie de l'ordre du dragon. Et le blason des Draculea porte la figure d'un dragon, sorte d'animal légendaire, totémique de la famille. Alors Vlad Tepes, ou Vlad l'Empaleur, connaît déjà une célébrité importante de son vivant, répandue surtout par les marchands saxons de Transylvanie et par Mathias Ier Corvin, le Juste, Mathias Corvin, le roi de Hongrie. Il est en effet connu comme étant un souverain cruel, on parle de Vlad Tepes, qui empale ses ennemis. Alors il aurait empalé, dit-on, des centaines de milliers d'hommes, et en particulier les négociants allemands de Transylvanie, membres de la vieille noblesse, les paysans qui se dressaient contre lui, ainsi que bien sûr les prisonniers turco-ottomans. En étant plus cruel encore que ses ennemis, il permit ainsi d'insinuer le doute parmi les Turco-Ottomans quant à leur supériorité guerrière. Et cette popularité s'est vraiment propagée avec la diffusion du personnage de Dracula, inventé par Bram Stoker pour son roman en 1897. Mais pourtant, ce roman ne se base pas sur le règne cruel de Vlad Tepes. Non, c'est une fiction censée se dérouler en Transylvanie et au Royaume-Uni au XIXe siècle. Mais néanmoins, en raison de son règne sanglant, eh bien Vlad Tepes Dracula a été immortalisé par Stoker sous la forme d'un vampire buvant le sang de ses victimes. Et l'image de la Transylvanie par le biais de Vlad Tepes est maintenant associée pour longtemps au conte vampire Dracula, dont le nom est celui du diable. Alors, il faut voir l'origine de la légende. Sa vie, on l'a connue grâce aux sources écrites qui relatent les faits et les gestes de Vlad III, prince de Valachie au milieu du XVe siècle. Alors Vlad III, ou Vlad Tepes l'Empaleur, était un monstre, un modèle de cruauté. Il était aussi une brute qui aimait répandre le sang, le feu, la mort partout. On prétendait même qu'il buvait le sang de ses victimes et qu'il sauçait, entre guillemets, son pain avec le sang. Qui tuait tous ceux qui se mettaient en travers de sa route, en leur réservant des morts atroces, dont celle du pâle. On enfonce un pieu, si possible par l'anus pour les hommes ou par le vagin chez les femmes, et on le fait ressortir par la bouche. Puis on laisse le pâle sur lequel la victime pourrit pendant des jours à la vue de tous. Ces victimes se comptèrent en milliers, en dizaines ou en centaines de milliers selon certaines sources. Mais, il faut quand même être très clair, s'il avait tué de cette façon-là des centaines de milliers de personnes, je pense que les forêts de Roumanie n'auraient pas suffi à la tâche. Alors, cette thèse occidentale trouve son origine dans la haine et le ressentiment de ses adversaires, qui étaient les marchands saxons et les boyards. Les boyards, donc, c'était des nobles terriens de Transylvanie qui ont toujours lutté pour conserver leurs privilèges dans leurs régions respectives. La diffusion d'écrits favorables à cette version en Europe a été fortement encouragée, par Matthias Corvin, le Juste, roi de Hongrie, qui cherchait à justifier son changement d'attitude. Après avoir soutenu Vlad dans toutes ses actions, et bien surtout celles contre les Turcs, il soutint ensuite son frère, qui était le candidat des Ottomans et chef des armées ottomanes, alors que Vlad était vaincu et lui demandait de l'aide. Il valait mieux dans ce cas-là faire passer Vlad pour un fou incontrôlable, presque surnaturel. Et au début du XIXe siècle, eh bien, cette thèse a été relancée par la publication en allemand des histoires de la Moldavie et de la Valachie de Johann Christian Engel, qui présente Vlad Tepes comme un tyran sanguinaire. Vlad Tepes était un chef qui utilisait la terreur pour se faire respecter de ses ennemis. C'est la thèse des chroniqueurs orientaux pour qui Vlad était un adversaire redoutable et respectable. Alors, je le disais, il est né en Transylvanie en 1431 et Vlad vit ses premières années à la cour de son père, qui s'appelait Vlad II le Dragon, Vlad Dracul, prince de Valachie. Et bien sûr, sa vie va se passer dans la lutte pour le trône, puisque le trône de Valachie, donc la province en question, est disputé par des familles cousines. Et en 1447, le père de Vlad a conclu la paix avec les Ottomans. Et en novembre de la même année, eh bien, le gouverneur de Hongrie, depuis une année, entreprend une expédition en Valachie, Et à ce moment-là, le père de Vlad l'Empaleur est capturé et tué, ainsi que son premier fils. Alors, en 1448, eh bien, Vlad III, donc le fils, Vlad III Tepes, rentre alors d'Antrinople, soutenu par une cavalerie turque et un contingent de troupes prêté par le pacha Mustafa Hassan. Et il profite de l'absence des Vladislas pour monter sur le trône. Mais Vladislas le chasse 2 mois plus tard, et lorsqu'il revient, il doit s'exiler en Moldavie, où règne Bogdan II, et il se lie d'amitié avec le futur Étienne III le Grand. Plus tard, Jean Uniade, qui doit partir défendre Belgrade contre les Turcs, lui confie une armée pour défendre le sud de la Transylvanie. Et Vlad Tepes, eh bien, en profite avec l'aide de Boyar pour reprendre le trône de Valachie en se débarrassant de Vladislas II en août 1456. Et Vlad commence alors sa plus longue période de règne, qui n'a pas duré très longtemps, 6 années, pendant laquelle il sait qu'il ne peut garder sa place qu'en la défendant chèrement contre tous ceux qui la convoitent. Et afin de consolider son pouvoir, eh bien, il s'efforce de centraliser l'autorité de la même façon que Matthias Corvin en Hongrie. Il fallait pour cela éliminer sans pitié tous ceux qui pouvaient le déstabiliser. Il a donc installé un régime de terreur de telle façon à ce que tous le redoutent et le craignent. Alors, il est inflexible lorsqu'il s'agit d'honnêteté et d'ordre. La plus petite infraction, du mensonge jusqu'au crime, pouvait être punie du pal. En fait, Dracula connaissait les vertus pédagogiques de la terreur. Sûr de l'efficacité de sa loi, Vlad place un jour une coupe en or en plein milieu de la place centrale de Targoviste, là où il règne. Les voyageurs assoiffés auront le droit de se servir de la coupe en or, mais elle doit bien sûr rester en place. Et selon les sources historiques, eh bien celle-ci ne fut jamais dérobée et resta pratiquement inutilisée tout le temps du règne de Vlad. Il dirige aussi sa vengeance contre les boyards, responsables de la mort de son père et de son frère Mircea. Et le dimanche de Pâques 1459, eh bien, il arrête toutes les familles de boyards qui faisaient la fête à la cour princière. Après avoir mis au pal les plus vieux, eh bien, il oblige le reste à marcher jusqu'à la ville de Poenari. Et ça fait quand même 100 kilomètres. Il ne permet pas aux survivants de se reposer à leur arrivée et il ordonne immédiatement de construire une forteresse sur les ruines d'un ancien avant-poste. Beaucoup évidemment meurent et Vlad crée une nouvelle noblesse parmi ses paysans libres et réussit à se faire construire rapidement une forteresse avec l'ancienne. Et cette forteresse est identifiée aujourd'hui comme le château de Bran. Alors, comme je vous le disais, Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, demeure connu pour ses techniques de punition brutale. Selon les dires des boyards saxons de Transylvanie, eh bien, il ordonne que les punis soient écorchés, bouillis, décapités, rendus aveugles, étranglés, pendus, brûlés, frits, cloués, enterrés vivants. Il adore couper le nez de ses victimes ainsi que les oreilles, les organes génitaux et la langue. Mais sa méthode favorite est la mise au pal, d'où son surnom d'empaleur. Et il applique cette technique en 1457, en 1459 et en 1460 contre les commerçants de Transylvanie qui se rebellent contre ses lois. Et en 1457, par exemple, les commerçants de Sibiu essaient de le remplacer par un prêtre des Roumains identifié comme étant le futur souverain Vlad IV, qui leur promet évidemment des avantages douaniers. Alors les représailles envers les marchands sont terribles et Vlad mérite bien son surnom d'empaleur. En début 1462, Vlad se sent beaucoup plus fort et la participation que lui promet Mathias Corvin, le Hongrois, dans une expédition contre les Turcs, l'enhardit jusqu'à briser son allégeance envers les Ottomans. Il lance alors une campagne contre les Turcs sur le Danube, tuant plus de 30 000 hommes. Alors Vlad, évidemment, provoque la colère du sultan Mehmed II lorsqu'il refuse d'accéder à la demande des émissaires turcs pour le paiement du tribut au sultan. Et lorsque les émissaires du sultan refusent d'ôter leur turban en face de lui, eh bien, ils s'assurent qu'ils les garderont ainsi en les clouant directement sur leur tête. Quand le sultan apprend l'exécution de ses émissaires, il décide de punir Vlad en envahissant massivement la Valachie. Mais un autre objectif du sultan est de transformer cette terre en province turque. Et il entre en Valachie avec une armée trois fois plus importante que celle de Vlad. Et alors, sans alliés, celui-ci doit se résoudre à se retirer à Targoviste, à brûler ses propres villages et à empoisonner les sources sur sa route de façon à ne plus rien laisser à boire et à manger à l'armée turque. Lorsque le sultan arrive à Targoviste, il est confronté à une vision d'épouvante. Sur des milliers de pales, les corps de plus de 20 000 prisonniers turcs sont dressés. Une scène terrifiante qui fut surnommée la forêt des pales. Mehmed, fatigué et affamé, reconnaît sa défaite et s'en retourne à Istanbul. Et ce fut une scène décrite par Victor Hugo, d'ailleurs, dans sa Légende des siècles, qui témoigne de cet incident étonnant. Alors Mehmed II préfère laisser sa place au combat à Radu III, le plus jeune frère de Vlad, candidat des Turcs pour le trône de Valachie. À la tête de l'armée turque et d'hommes qu'il convainc de rejoindre son camp plutôt que d'obéir à Vlad, il poursuit son frère jusqu'au château Poenari. Et d'après la légende, la femme de Vlad, qui veut s'échapper d'un cachot turc, se donne la mort en se jetant du haut de la falaise. Et ceux qui ont vu le film de Francis Ford Coppola verront que la scène a été exploitée. Et Vlad, lui, n'est pas le genre d'homme à se suicider. Alors, il réussit à s'échapper du siège de sa forteresse en empruntant un passage secret à travers la montagne. Et Radu le Beau monte sur le trône de Valachie le 15 août 1462. Et Vlad, il revient en Transylvanie pour rencontrer Mathias, qui, pense-t-il, arrive à Brasov pour se porter à son secours. Les autorités locales de Brasov ont déjà changé d'avis en reconnaissant Radu comme souverain depuis 2 mois. Et Mathias, qui constate la situation et qui est aidé, entre guillemets, dans sa décision par les commerçants saxons, fait arrêter Vlad par un chef hussite. Et Vlad est maintenant prisonnier à Buda qui est une partie de la ville de Budapest, pendant 12 ans, et libéré, il retourne à Bucarest. Et voyez-vous, en 1476, Vlad est reconnu à nouveau comme prince de Valachie, mais il ne se réjouit que peu de temps de son troisième règne, car il est assassiné à la fin du mois de décembre 1476, à Bucarest, et le corps de Vlad Tepes est décapité, et sa tête envoyée au sultan qui la pique sur un pieu comme preuve qu'il est bien mort. Vlad Tepes est enterré au monastère de Snagov, sur une île proche de Bucarest. Alors, des études récentes ont montré que le tombeau de Vlad Tepes au monastère de Snagov ne contient que quelques ossements de chevaux datés du néolithique et ne correspondent absolument pas aux vrais restes du prince Valak. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi Bram Stoker a pris comme modèle pour son personnage de fiction le prince de Valachie du XVe siècle. Quelques-uns ont proposé l'idée que Stoker aurait rencontré un professeur hongrois de l'université de Budapest, Arminius Vambéry, et il est possible qu'il ait pu avoir des informations sur Vlad Tepes grâce à lui. Et en outre, le fait que le docteur Abraham Van Helsing mentionne son ami Arminius dans le roman de 1897 comme source de ses connaissances sur Vlad Tepes semble être en faveur de cette hypothèse. Et de même, le seul lien réel entre le Vlad Tepes historique et le mythe littéraire moderne du vampire est le livre de Stoker. Bram Stoker s'est servi des sources populaires, de détails historiques et de quelques expériences de sa vie personnelle pour donner la vie à une créature complexe. D'autre part, les adversaires politiques principaux de Vlad, qui étaient à l'époque les Saxons de Transylvanie, se sont servis du sens de diable du mot roumain drac pour jeter le discrédit sur la réputation du prince. Et en effet, ils auraient pu associer les deux sens du mot roumain dragon et diable pour expliquer une relation plus étroite entre Vlad Tepes et les vampires. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec ces descriptions horribles. J'espère par contre que vous aurez apprécié ce récit et que maintenant vous mettrez un nom sur, sur cet homme de Roumanie qui a vécu au XVe siècle et qu'on a appelé Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.